Et pour rester dans la suite de cette prière, j'espère que vous entendrez l'appel à travers les deux textes qui vont être lus maintenant. Tout d'abord dans les Actes des Apôtres, ce qui ne va pas vous surprendre évidemment, au chapitre 2, les premiers versets de ce chapitre. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, un peu plus loin dans la Nouvelle Alliance, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 12 à 22. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent la peine pour vous diriger dans le Seigneur et pour vous reprendre. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères. Reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'égard de toute espèce de mal. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière, et de ce cantique 216, de prendre les trois strophes.
Yeah.
prie, Père, que ton esprit brille en tout temps, en tout lieu, pour que le monde puisse vivre de ta présence, dans la paix et dans l'espérance. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, Thessalonique, qui est une grande ville pour l'époque, qui est une sorte de capitale régionale, et c'est la deuxième ville que l'apôtre Paul a visitée après Philippe, une fois qu'il a franchi les détroits du Bosphore pour passer de l'Asie en Europe. Donc c'est la deuxième communauté d'Europe. C'est certainement une communauté qui tient à cœur à l'apôtre, puisque cette première lettre de l'apôtre aux Thessaloniciens est le document le plus ancien que nous ayons du Nouveau Testament, puisqu'il date de l'année 50. Et donc on est vraiment très très proche, ce que vous disiez à d'autres occasions, de l'événement Jésus-Christ, qui lui prend fin, vous le savez, vers l'année 33-34, enfin c'est pas très précis, un an près, mais enfin peu importe, c'est-à-dire Jésus-Christ était encore de ce monde 15 ans avant que Paul n'écrive cette lettre. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que cette lettre, lorsqu'on la lit, on peut être parfois surpris parce qu'elle contient des affirmations qui sont depuis devenues un petit peu obsolètes ou qu'il faut lire avec des lunettes un peu spéciales sur la fin des temps qui est tout à fait imminente, des choses comme cela. Mais elle est surtout une lettre relativement peu dogmatique. Il ne nous dit pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il faut adorer Dieu comme ceci ou cela, que Dieu est comme ceci ou comme cela. Absolument pas. Et pourtant, dans ce petit billet, parce qu'elle est assez courte, cette lettre, chapitre 5 est tout à fait le dernier chapitre, cette lettre qui est peu dogmatique nous dit des choses qui sont tout à fait intéressantes et essentielles. Et en particulier, dans le passage que nous avons lu de cette lettre aux Thessaloniciens, il y a, je dirais, le fondement de la loi nouvelle, telle que Paul la vit, la ressent. Il ne dit pas « c'est une nouvelle loi », absolument pas, que je vous donne ainsi, mais on peut penser que c'est une nouvelle loi qui est écrite là. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 exhortations qui sont données, là, au cœur même de ce passage. 5 exhortations, c'est-à-dire que ça fait penser tout de suite au Pentateuque, hein, aux 5 livres de la loi. Très souvent, dans le Nouveau Testament, lorsque vous lisez quelque chose où il y a la référence à 5 événements, au chiffre 5 ou quelque chose comme cela, il faut faire attention, on a souvent, par ce chiffre, une référence au Pentateuque, c'est-à-dire à la loi, à la Torah. Donc là, visiblement, avec ces exhortations, on a une référence, vraisemblablement, à la loi, à une nouvelle loi. Mais cette loi ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas imposée comme cela de l'extérieur. Elle n'est pas coercitive. Elle est une loi qui vient de l'intérieur même de l'être. Et c'est ça qui fait sa particularité par rapport à la Torah classique, qui est intéressante, qui est pleine d'enseignements et qu'on a toujours intérêt à suivre malgré tout, évidemment. Mais là, il s'agit d'une transformation intérieure de l'être qui fait que, par cette conversion, il y a quelque chose qui sort de l'être humain. Ce qui fait que ce passage nous dit que cette nouvelle loi va être fondée sur la relation que l'on va avoir avec les autres. Et cette relation qu'on va avoir avec les autres, si vous lisez attentivement ce texte, vous verrez qu'elle est fondée, elle, sur la spontanéité, finalement, sur du positif, dirais-je, aller, reprenez, aider, etc. Et il y a une dynamique qui est là. Il y a une dynamique. Il n'y a pas de choses négatives. Il n'y a pas ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. Mais il y a vraiment une spontanéité, une dynamique, comme si on était porté par quelque chose qui nous pousse à aller vers les autres. Et ce que dit Paul à ces Thessaloniciens, c'est une des premières grandes recommandations que nous avons de l'Église tout à fait primitive du début. Il est quand même extrêmement intéressant de le constater. Alors peut-être que ce passage qui nous dit la relation qu'il doit y avoir entre les frères dans la communauté, évidemment, dans cette dynamique joyeuse, et va après être développée, va maturer, si je puis dire. Et c'est vrai que Paul, plus tard, vous le savez, dans l'Épître aux Romains, écrira le premier traité de dogmatique. Mais là, il n'y a pas de dogmatique. Il n'y a pas de dogmatique, heureusement, parce que la dogmatique est toujours sujette à caution, elle cherche toujours à définir Dieu, à dire Dieu, et donc à l'enfermer. Et souvent, le dogme se présente, comme son nom l'indique, comme une vérité, ce qui est toujours un petit peu dangereux. Alors que le message de Jésus, lui, n'est pas fondé sur une dogmatique, mais il s'appuie sur cette spontanéité, sur un amour qui est là, qui fait qu'on va vers les autres pour les aimer, pour leur signifier cette relation tout à fait extraordinaire. Voyez comme ils s'aimaient, disaient les païens à propos des premiers chrétiens. C'était quelque chose qui frappait les païens lorsqu'ils rencontraient les premières communautés chrétiennes. Je ne sais plus si c'est Cels ou un autre qui a dit cette réflexion, voyez comme ils s'aiment. Voilà, tout est positif là-dedans et ça finit par la joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la finale de ces cinq exhortations débouche sur la joie. Une dynamique joyeuse. C'est la volonté de Jésus-Christ, c'est aussi une forme de liberté qui s'exprime là dans cette spontanéité. Cette loi n'est pas une loi morale, évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait de morale dans le Nouveau Testament. Même si ça peut vous sembler un peu bizarre de le dire, non, il y a une manière d'être, ce qu'on appelle une éthique aujourd'hui, qui est éclairée par l'Esprit, en fait. Et c'est ça qui fait peut-être la différence, qui fait que ces écrits du Nouveau Testament, s'ils ne sont pas des obligations à suivre, ou des exemples à suivre obligatoirement, n'en sont pas moins porteurs de quelque chose de fort, de puissant, comme si un souffle traversait ces textes, ces manières d'être, ces récits, ces paraboles, ces guérisons, que sais-je encore. Oui, l'esprit est difficile à définir. On en parle peu de l'esprit. Je crois en l'esprit, point. Ça s'arrête là. Je veux dire, sur Jésus, on peut en écrire des livres et des livres. Sur Dieu, on en écrit un peu moins. Et sur l'esprit, on n'en écrit pratiquement pas. Parce que l'esprit est insaisissable. L'esprit est un souffle, une inspiration, quelque chose qu'on le ressent et qui donne la vie. L'esprit est incontestablement lié à l'amour de Dieu, à cet agapé dont je vous ai parlé ici il n'y a pas très longtemps. Et on peut dire même que l'esprit, c'est peut-être l'essence même de Dieu. Lorsque Dieu souffle sur Adam pour le réveiller, pour lui donner vie, par exemple. L'esprit est là, il est à la surface des eaux aussi, à la surface du chaos dans la Genèse. L'esprit, il est là. Il est là comme étant vraiment le signe même de la présence de Dieu. Et il est insaisissable. C'est vrai qu'on ne peut pas nommer Dieu. C'est une entreprise qui est un petit peu vaine. Même si on prononce son nom, mais son nom, comme vous le savez, est imprononçable et le sens même de son nom, Yahvé, est très difficile à traduire finalement. On le traduit par l'éternel dans la traduction seconde, ce qui est une des moins mauvaises traductions, mais en fait c'est l'expression de l'être. C'est celui qui est là, dans le buisson ardent, vous le savez. L'esprit, en revanche, On ne le nomme jamais. On ne le nomme jamais, mais on sait qu'il est là. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, comme le dit Jésus à Nicodème dans un entretien célèbre, mais on en mesure les faits. Il est là, l'Esprit qui éclaire et qui donne du sens. Il libère aussi. Toujours frappant de voir qu'il y a des savants qui connaissent la Bible très bien, qui peuvent dire des choses extrêmement intéressantes sur la Bible, en faire des études littéraires, des études historiques, mettre la Bible en perspective avec d'autres cultures, d'autres civilisations de l'époque, se pencher sur toutes les découvertes archéologiques, linguistiques qu'on puisse imaginer. Il y a des savants qui sont comme cela extrêmement pointus, extrêmement forts, et qui pourtant ne saisissent pas que dans la Bible, il y a autre chose. Il y a un souffle qui est là. L'Esprit, s'il n'est pas là, eh bien, il manque quelque chose. L'Esprit, lorsque on saisit sa présence, donne à la Bible tout ce dont je viens de parler, mais aussi quelque chose de plus. Il donne à la Bible une force incroyable qui fait que certains peuvent en vivre, même quand ils sont au fin fond du désespoir. L'Esprit, il est là comme quelque chose dont on a vraiment besoin. Il faut vraiment réaliser. L'Église a besoin de l'Esprit pour vivre. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des débordements, et Paul, l'apôtre, le sait, évidemment, dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, on a des remarques sur l'Esprit. Oui, il faut qu'il y ait l'Esprit qui souffle dans l'Église, peut-être pour la dynamiser, évidemment, quand il faut, lui donner la force du témoignage. C'est vrai aussi qu'il faut faire attention aux débordements, qu'on puisse éviter le n'importe quoi au nom de l'Esprit. Jeu subtil, évidemment. Mais surtout, il faut que l'Esprit qui est là et qui souffle dans le monde, dans l'Écriture et dans nos vies, dans nos cœurs, puisse nous faire saisir toute la dimension de la grâce, de l'amour de Dieu pour le monde. L'Esprit est là. C'est l'Esprit du monde aussi qui donne du sens au monde. C'est un Esprit infini qui nous ouvre des perspectives incroyables. Jamais l'horizon n'est fermé avec l'Esprit, jamais. C'est toujours ouvert. L'Esprit nous ouvre là la possibilité de toute action, de toute pensée, de tout projet. L'Esprit est un esprit de liberté, un esprit de vie, de risque aussi, évidemment. L'Esprit est là qui se communique au monde et aux hommes. C'est cet esprit qui est dans la création. C'est cet esprit qui va guider le peuple dans l'Exode et dans la traversée du désert, à travers cette colonne de fumée de jour et de lumière la nuit. C'est cet esprit aussi qui va souffler à Pentecôte. C'est assez intéressant ce petit texte que je vous ai lu de Pentecôte, parce qu'ils sont tous là ensemble et pourtant chacun reçoit la part de l'esprit. L'esprit se pose sur chaque apôtre. Voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous reçoivent l'Esprit. Et l'Esprit est comme l'amour, il peut se diviser à l'infini, il restera toujours constant. C'est une des particularités de l'Esprit. C'est-à-dire que, alors que nous pouvons rester là tous ensemble, les uns les autres, comme nous le sommes ici dans cette communauté du foyer de l'âme, ce dimanche, chacun d'entre nous recevra toujours la même quantité d'Esprit. Nous sommes ensemble, mais nous sommes aussi des individus, bien typés, bien séparés, avec nos qualités, nos défauts aussi, évidemment, nos passions, nos souffrances, nos questions, nos doutes aussi. Mais toutes et tous, nous recevons l'Esprit dans sa totalité, finalement. L'Esprit qui se divise comme cela, pour nous atteindre les uns et les autres. Alors Paul a bien conscience de cela lui-même, lorsqu'il était sur la route de Damas pour aller arrêter les chrétiens, ce que vous savez, a reçu l'Esprit, et donc a été complété par son baptême avec Ananias. Relisez les Actes des Apôtres, tout cela vous est raconté, mais Paul sait ce que c'est que l'Esprit. Il en a senti la force, évidemment. Il en a senti l'intérêt aussi, bien sûr. Et il est là, il dit à cette communauté, voyez, cette loi qui est là, qui vient de vous, qui signifie que vous avez vécu une conversion, quelque chose d'extraordinaire, ben c'est l'Esprit qui est là. N'éteignez pas cet Esprit qui vous donne la force de vivre cette manière d'être nouvelle. N'éteignez pas l'Esprit. Parce que l'Esprit, s'il peut se manifester dans la toute-puissance, se manifeste surtout dans nos cœurs, dans la discrétion. L'Esprit est un esprit de liberté, et s'il est esprit de liberté, il ne va pas s'imposer à nous pour nous vraiment empêcher toute forme de liberté. Au contraire, l'Esprit sera toujours discret, mais il brillera toujours, évidemment, pour nous ouvrir ces possibilités de liberté, de telle sorte qu'on puisse effectivement faire le bon choix et choisir l'Esprit. Malheureusement, nous le savons que trop, le monde vise à éteindre l'Esprit. Hélas, le matérialisme dans lequel baigne notre société depuis des décennies maintenant, voire maintenant peut-être même des siècles, pourrions-nous dire, a tendance à faire passer les choses matérielles avant les choses spirituelles. Les soucis du monde qui sont là, il y a des paraboles là-dessus, hein, vous savez, le semeur qui sème, et puis il y a les ronces qui sont là et qui étouffent tout. Les modes aussi, je suis assez frappé de voir combien nous sommes matraqués par la publicité, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télévision, que ce soit sur la toile, sur Internet, on reçoit des publicités incessantes, qui sont là, qui nous modèlent, qui nous formatent finalement, et qui emprisonnent notre esprit. Les jeunes, malheureusement, avec le souci qu'ils ont d'être à la mode et d'avoir des marques, vous savez, sont très sensibles et très malléables, finalement, à ce type de publicité. Combien sont-ils ceux qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le t-shirt qui convient pas, je veux dire. Et on ne le dit que trop. Et la publicité joue là-dessus, malheureusement. Volonté aussi que nous avons dans ce monde d'être libérés de tout, d'être affranchis, comme on dit, et d'assumer, vous savez. Combien de fois j'entends des gens qui prennent des risques terribles, mais qui disent « mais c'est pas grave, j'assume ». C'est pas très bien ce qu'ils assument. Parce que quand on prend un risque pour soi, ça ne veut pas dire qu'on va assumer, si un malheur arrive, la peine des parents, des frères et sœurs et des camarades. Et oui, toujours facile de dire « j'assume pour moi », mais est-ce que j'assume aussi pour les autres ? Question qui se pose. La volonté de se sentir libre. Mais il y a l'orgueil qui est là-dedans, malheureusement. On n'est jamais complètement libre, évidemment. Nous sommes toujours liés quelque part, d'une manière ou d'une autre, hélas. Nous ne le savons que trop. Mais ce qui me frappe dans nos sociétés modernes, à la suite des dénonciations de la techno, de l'administration, des technostructures, c'est tout l'envahissement de la science. Formidable d'habiter et de vivre au XXIe siècle. Tous les gens qui sont dans les hôpitaux peuvent vous le dire. Il vaut mieux être opéré aujourd'hui au XXIe siècle qu'au XIXe siècle. Les souffrances ne sont pas les mêmes et les conséquences ne sont pas les mêmes non plus, évidemment. Si vous voulez aller au bout du monde, il est plus facile d'y aller aujourd'hui que d'y aller il y a 2 siècles, évidemment. Donc il ne faut pas jeter comme cela le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, se débarrasser de la science en disant tout ça, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas vrai. C'est trop simple. Mais il faut faire attention. Lorsqu'il y a un envahissement de la volonté de puissance, lorsque la science nous promet de devenir des dieux, finalement, et que ce discours résonne en nous, finalement, et nous attire, mais nous emprisonne aussi, effectivement. Parce que là aussi, dans tout ce que je viens de dénoncer, que ce soit le matérialisme, le souci de la mode, le transhumanisme auquel je viens de faire référence, il y a des formes d'aliénation qui sont là, qui se passent, finalement. Parce qu'il manque quelque chose, précisément, à tout cela. C'est cette flamme de l'esprit. La science, elle est formidable si nous la mettons aussi au service des autres. Je veux dire, le matérialisme, il est bien si nous le maîtrisons et si nous le partageons. Vous savez que près de la moitié de la nourriture qui est produite dans le monde est jetée. Vous m'avez bien entendu. Et que pendant que nous en sommes là, réunis pendant ce temps de culte ici, il y a des milliers d'enfants qui meurent de faim pendant ce temps de culte. Et on jette la moitié de la nourriture produite dans le monde. Parce que nous sommes dans un système injuste, épouvantable, païen, qui est le système matérialiste. Quand même des responsabilités devant lesquelles il faut quand même se placer de temps en temps, je veux dire. Parce qu'il manque l'esprit. Un système est sans esprit. Il est raisonnable. Il n'y a pas de problème. On va vous asséner tout avec des chiffres, etc. C'est une volonté de puissance asservissante. Nous sommes tous catalogués, chiffrés. Vous ne pouvez pas ouvrir la radio un jour sans qu'on vous sorte une statistique, un chiffre, un pourcentage. C'est fantastique d'avoir un monde comme cela qui est chiffré, qui est classé, qui est catalogué. mais qui était porteur de mort derrière le décor qu'il nous dresse et qui nous attire. Oui, lorsque l'esprit est éteint, le monde manque de lumière, il manque d'espérance, il manque d'aspérité, il manque d'ombre aussi, il manque quelque chose d'essentiel. Peut-être une sorte de cercle vicieux, parce que plus le monde manque d'esprit, plus on se jette dans les bras de ce monde pour compenser ce manque d'esprit, croyant que le bonheur, l'avenir et l'espérance sont dans ce monde matériel, païen, matérialiste. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il est là, au cœur de chacun d'entre nous. Il brûle pour que nous puissions vivre véritablement. Il nous saisit. Il nous saisit pour nous mettre en route, pour nous décaler en quelque sorte et faire de nous les témoins d'une espérance dont le monde a besoin. L'esprit, c'est une puissance qui nous libère de toutes les formes d'aliénation et qui nous fait vivre. Amen.